poursuit. Vas-y, redis, s'il te plaît.
C'est nous qui avons notre propre choix, on a pris une chose de nos parents.
Voilà, le propre de l'adulte, c'est d'être responsable, n'est-ce pas, Hugues? Parce que c'est important que tu participes, mon cher, au lieu de t'endormir. Oui, je vois ça. Donc, le propre de l'adulte, c'est d'être responsable, c'est de se prendre en main. Effectivement, votre confirmation, par votre confirmation, vous prenez votre vie de foi en main, c'est-à-dire que normalement, vous ne croyez pas seulement, vous ne croyez plus seulement parce que vos parents croient, vous n'allez pas à la messe seulement parce que vos parents vous y emmènent, mais vous êtes censé y aller par vous-même. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vos parents ne vous forcent plus qu'il ne faut plus y aller. Au contraire, vous devez y aller par vous-même parce que vous savez ce que représente pour vous l'Eucharistie. Parce que vous savez que c'est vraiment le lieu, le moment où vous allez nourrir votre foi, où vous allez vivre du Christ, c'est-à-dire que vous allez vraiment recevoir du Christ, en particulier par la communion, l'énergie, la force dont vous avez besoin pour vivre la foi, certes, mais pas seulement pour vivre votre vie. Donc, par la confirmation, vous prenez votre vie de foi en main. Si, une fois encore, vous vous arrêtez à la confirmation, c'est comme si vous vous empêchiez de grandir. C'est comme si vous vous arrêtiez à l'adolescence. C'est même dommage de ne pas poursuivre jusqu'à l'âge adulte. En un mot, par la confirmation, vous prenez votre vie en main, votre vie de foi en main, vous prenez vos responsabilités, vous avez donc des responsabilités à assumer. Et je vous donnerai trois engagements, trois types de responsabilités à prendre en main. Le premier engagement, pour jouer un rôle dans l'Église, c'est un engagement de formation. Alors là, vous allez vous dire, oh merde, il va encore falloir travailler. Vous le savez, on n'a jamais fini d'apprendre, mais en particulier parce que, eh bien, tout au long de notre vie, se présentent à nous des défis. Voilà, il y a des faits de société qui posent questions. Là, cette année, ça va être le débat sur l'euthanasie. La question est, comment, comme chrétien, on réagit à cette question? Que penser sur cette question? Comment réagir? Et comment est-ce que l'on doit, qu'est-ce que l'on doit décider, qu'est-ce que l'on veut réellement pour notre société? Donc que doit-on penser comme chrétien? On va donc dire, que pense l'Église du sujet? Ça suppose que chacun d'entre vous se renseigne. Ça suppose que chacun d'entre vous prenne le temps de réfléchir à cette question. Ça suppose que chacun d'entre vous, en un mot, se forme. Là, je prends un débat de société parce que on en a eu l'année dernière, on en a cette année, mais de toute façon, on en aura toujours. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des questions que d'autres vont vous poser, ou vous posent déjà. Des gens qui, n'étant pas chrétiens, étant athées, parfois résolument athées, vont vous provoquer, ils vont vous provoquer sur la religion, vous dire que vous croyez en des conneries, que ça ne sert strictement à rien, vont vous dire que... Je ne sais pas, moi, l'Église n'est qu'une secte qui finalement a réussi. En somme, il faut que vous soyez aussi capable de répondre à ces questions. Il faut que vous soyez capable de réfléchir et d'éclairer ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Il va falloir que vous soyez capable de justifier. Et dans la lettre de Saint-Pierre que tu liras pour demain, Saint-Pierre dit « Mais soyez capable de rendre raison de votre foi. » Et souvent, le problème des chrétiens, mais c'est le problème de chacun d'entre nous, c'est qu'on n'est pas capable de défendre notre foi parce qu'on n'est pas... Parce que aussi, on ne la connaît pas vraiment. Parce qu'on ne sait pas vraiment ce en quoi on croit. Parce qu'on n'a pas forcément pris la peine d'y réfléchir. Alors après, tu as raison, parfois c'est une question de courage. On n'ose pas parce qu'on se dit on va s'en prendre plein la gueule. Et parfois, le respect humain fait qu'on est un peu bloqué. Mais c'est dommage de ne pas croire aussi que... En assumant notre foi, eh bien, nous sommes capables aussi de transformer les choses. Je crois en la puissance, tu vois, d'une minorité capable de transformer de l'intérieur une société, ce à quoi vous êtes appelés, ce à quoi on est tous appelés. Enfin, si vous voulez être une force de changement, qui après tout c'est une expression très à la mode, mais si vous voulez être une force de changement, et si vous voulez qu'il soit maintenant, eh bien, prenez une fois encore en main vos responsabilités de chrétien, et je commence par insister... Renseignez-vous sur votre foi. Ça arrive assez souvent, c'est encore arrivé il y a deux jours, que certains parmi vous, des jeunes de votre âge, viennent me voir avec d'autres jeunes, des amis,
qui ne sont pas du tout, mais pas du tout croyants, et qui viennent pour poser des questions. Et je trouve ça vraiment top, parce que, voilà, là, en l'occurrence, c'est une fille qui me dit, bah, j'ai une amie, franchement, elle a énormément de questions, moi, je ne sais pas trop y répondre, et j'aimerais bien que tu la rencontres pour qu'on discute. Et du coup, on a passé une heure et demie à discuter, elle était venue avec plein de questions. Je ne dis pas qu'elle est repartie convaincue, et ce n'est même pas ça le plus important, c'est qu'au moins, il y a eu une discussion. Elle a pris la peine de discuter, j'ai pris la peine de discuter, et du coup, eh bien, elle a vu que l'on pouvait s'entendre, et je pense qu'elle a aussi découvert que, bah, avec un chrétien, on peut dialoguer, en l'occurrence aussi avec un prêtre, on peut dialoguer, quand bien même on n'est pas d'accord in fine, au moins on peut en parler. Mais il faut que dans ces cas-là, on soit aussi capable d'assumer notre foi, capable d'en parler, et puis aussi capable de leur proposer à vos amis, eh bien, de rencontrer des personnes qui pourront mieux répondre à leurs questions si vous n'y arrivez pas vous-même. Donc, un premier engagement, c'est un engagement de formation. Et vous n'êtes plus des enfants tout de même, vous êtes au lycée, et vous êtes du coup à un âge où il existe, et vous le savez, énormément de propositions autour de vous. Dans les Yvelines, vous savez quand même qu'il y a beaucoup de propositions qui vous sont faites pour essayer justement de nourrir votre intelligence, parce que la foi est intelligente et que la foi suppose la raison. Eh bien, pour nourrir cette raison, pour nourrir cette intelligence, vous avez énormément de propositions. Sachez en profiter. Premier engagement, la formation. Le deuxième engagement, c'est l'engagement de la charité. La charité, c'est quoi ? C'est l'amour. Merci.
L'amour.
T'as dit quoi ?
Bravo. C'est magnifique.
Donc, la charité, c'est effectivement donner. Ah bah, c'est, oui, c'est toi la victime des... Donc, comme tu vas lire Saint-Pierre et Saint-Jean pour demain, et en faire un résumé à tout le monde... Non, elle est pas, ça va pas être le
Tu peux leur donner tous les épîtres. Je disais que des apôtres, non.
4 pages.
Et donc,
Faites gaffe, vous allez en avoir.
Là, c'est Saint-Louis.
Bon, silence, on poursuit. Saint Jean dit, il est inutile, enfin, celui qui dit aimer Dieu sans aimer son frère
est un péché.
Menteur.
Calomniateur.
Bravo. Celui qui dit aimer Dieu sans aimer son frère est un menteur. En un mot, c'est inutile de dire que l'on croit en Dieu si on n'est pas capable, si on n'est pas foutu d'aimer son prochain, c'est-à-dire de se donner à lui, de lui venir en aide. Et c'est, en particulier, la parabole du Samaritain. Grosso merdo, vas-y, raconte l'histoire. Attends, vous pouvez vous taire ou pas ?
Je suis à côté de lui. Hein. Je vais prendre un sur mes mousses.
Tu lui demandes de venir ici, je vais mettre la muraille.
Voilà.
Non. C'est quoi ça ?
Il n'est pas allumé. Il y a enregistré.
C'est un enregistreur.
Heureusement que tu passes à la.
Non, mais j'avais pas compris ce que c'était. Il a allumé.
Voilà, bravo.
Bonjour, c'est Nicolas.
effectivement, la parabole du bon samaritain.
Vous êtes en direct du Carrefour. Et
la merde. Je te parle avec lui, non, pas toi. Oh.
La parabole du bon samaritain montre que la foi en Dieu doit se traduire dans les actes par la charité, par l'attention de charité à l'égard des autres. Quel est, pour Jésus, le résumé de la foi chrétienne? Vous savez, quand un mec dit à Jésus, quel est le plus grand des commandements? D'une certaine manière, il demande à Jésus, c'est quoi le plus grand? Quelle est la réponse de Jésus? Quand le scribe demande à Jésus quel est le plus grand des commandements, Jésus lui répond. Non, juste avant. En fait, il lui dit quel est le premier des commandements. Le scribe répond tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de tout ton esprit. Et le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. En fait, Jésus montre que le résumé de la foi chrétienne, c'est l'amour de Dieu et du prochain. L'amour de Dieu qui est source de l'amour que l'on a pour le prochain, parce que aimer son frère n'est pas chose aisée, évidente. C'est le fait d'aimer Dieu qui devient pour nous force, source, pour aimer les autres. Et donc, on travaillera peut-être 17 plus tard. Donc, pour l'amour de Dieu doit se traduire par l'amour de nos frères, comme l'amour de nos frères est l'expression de l'amour que l'on porte à Dieu. Ça va pour ça? C'est clair? Donc, comme chrétien, vous ne pouvez pas vous contenter de dire que vous croyez en Dieu sans pratiquer votre religion et sans la pratiquer de deux manières. Sans la pratiquer d'abord par le service que vous aurez pour les autres. Un chrétien qui n'a rien à foutre de personne est, je dirais, un chrétien qui n'a rien compris à sa religion et qui est complètement passé à côté. Donc, l'engagement auquel que vous allez prendre par votre confirmation, ce sont vraiment des engagements de charité, bien sûr, à la mesure de vos possibilités, selon vos disponibilités, selon votre âge, évidemment. Et vous savez, et vous en parlerez en petit groupe, qu'il existe énormément de choses qui vous sont proposées pour que vous puissiez vraiment mettre en œuvre votre foi. Mais, au-delà de la question des engagements que vous allez prendre, n'oubliez pas que, par votre confirmation, vous allez surtout vous engager à la charité de manière quotidienne, c'est-à-dire par l'attention que vous allez porter à votre prochain, c'est-à-dire aux personnes avec lesquelles vous vivez, les personnes qui vous côtoient. La charité, ce n'est pas seulement d'aller faire un voyage humanitaire. La charité, ce n'est pas seulement d'aller avec la conférence Saint-Vincent de Paul, même si c'est absolument capital et essentiel. La charité, ce n'est pas seulement d'aller à la soupe populaire ou avec les Restos du Cœur. La charité, c'est le fait d'être attentif aux besoins des autres, quels qu'ils soient. Et chaque jour, vous rencontrez des personnes qui nécessairement ont besoin de vous, en famille, au lycée, n'importe où, vous rencontrerez forcément des gens qui ont besoin de vous. La charité, c'est parfois quelque chose de très simple, de très bête. J'ai raconté ça, je ne sais plus à qui, mais cet été en allant... Exclusif, que si tu t'occupes de toi, tu ne peux pas t'occuper des autres, si tu t'occupes des autres, tu ne peux pas t'occuper de toi.
Si tu t'occupes des autres, tu peux moins t'occuper. En fait, tu ne peux pas t'occuper de toi.
Mais là, j'ai pas pris qu'il fallait trop s'occuper des autres. Tu peux très bien le faire avec une certaine
manière. Toi.
C'est pas exclusif. Il faut bien effectivement se reposer pour avoir l'énergie nécessaire pour venir en aide aux autres.
Ah bah oui,
tu as raison.
Mais par exemple, si on donne une pièce à un clochard, c'est bon d'être notre bonne action du jour.
Bah, je sais pas, t'avais ta bonne action du jour, tu peux avoir l'occasion d'en avoir d'autres à faire.
Ouais, mais vaut pas payer une par jour quand même, parce qu'il vaut mieux faire régulier et en faire moins que...
C'est quoi ce que... Mais ceci étant dit, pour parler de la charité, afin de ne pas réduire la charité non plus, vous voyez, à des trucs très cons comme simplement donner la pièce C'est important. Mais je me rappelle cet été avoir visité donc, un camp scout, et pour ceux qui sont scouts parmi vous, vous savez que vous êtes pénible parce que vous allez toujours vous mettre dans des endroits impossibles au fin fond de la France. Et là, en l'occurrence, c'était en et c'était vraiment un endroit vraiment paumé. Et les scouts sont très sympas, mais le problème, c'est qu'au petit-déj, ils prennent du chocolat chaud. Et c'est que je ne supporte pas le chocolat chaud au petit-déj. Et donc, du coup, je pars en règle générale dans le village d'à côté prendre un café. C'est absolument capital. 300 cafés, c'est capital pour moi.
Mais c'est matériel, monsieur.
Oui, c'est matériel. Il faut bien prendre une fois pour prendre soin des autres, en chair. Le matin dans ce café, prendre un café, et vous savez quand vous allez prendre un café, que la moindre des choses c'est normalement demander si la personne accepte que vous mangez le croissant que vous avez pu acheter ailleurs. Donc j'arrive et je tombe sur une dame marrante, non, elle était sympa, elle était marrante, un peu complètement fondée, mais hyper drôle. Donc j'arrive et puis je dis bonjour, bonjour, bon c'est tout, je dis si tu peux m'asseoir et manger le croissant que j'achète ailleurs, je dis oui bien sûr, très bien, dis vous voulez quoi, j'ai un espresso, très bien, ça sort. Elle m'apporte le café, je lui dis merci. Et là elle me dit non, c'est moi qui vous remercie. Non. Et elle me dit, mais non mais les gens ils disent pas forcément merci et le fait que vous soyez venu demander si vous pouvez venir pour manger le croissant et le fait que vous disiez merci, bah ça me touche beaucoup. Et je me suis dit, franchement, c'est vraiment très con. Mais enfin, visiblement, ça lui a fait vraiment plaisir, ça l'a vraiment honoré. Je me suis dit, bah, au sens propre du terme, je ne dirais pas avoir fait la charité, parce que j'ai pas conscience que simplement en demandant une autorisation et en disant merci, ça avait fait autant d'effet. Mais en tous les cas, ça nous rappelle que simplement l'attention qu'on a aux autres, aussi simple soit-elle que une marque de politesse, c'est une marque de charité. Et c'est un engagement réel, concret. En un mot, par votre confirmation, vous vous engagez à chaque jour être réellement attentif aux besoins des autres, aussi simple soit-il, aussi simple que soient ses besoins. Et puis, le deuxième, donc là c'est l'engagement de charité, et puis le troisième engagement que vous allez prendre par votre confirmation, eh bien c'est l'engagement à la prière. Pourquoi ? Parce que, premièrement, je ne peux pas me contenter de dire que je crois en Dieu si je n'ai pas avec Dieu un lien personnel. Si vous n'entretenez pas de relation avec Dieu, il est fort à parier que la relation avec Dieu risque de péricliter. Cet été, bon, pareil, j'ai déjà raconté à certains, j'ai célébré un mariage, fort sympathique, et là, pendant tout le cocktail et le dîner, il y a des gens qui sont venus parler, pas mal de gens qui étaient plutôt athées, qui avaient envie de parler religion. Bon, plutôt cool. Et puis, jusqu'à 3h du matin, même à 3h du matin, il y a quelqu'un qui a demandé à se confesser. Je me suis dit, ouais, enfin, du coup, je voyais tout le monde s'amuser et boire. Et toi, t'es là, ouais, bien sûr, on confesse, c'est normal, on est dispo. Et il y a un mec qui vient me voir et qui, penché, c'est vrai, me dit, ouais, il faudrait qu'on parle religion. Je dis, bah, oui, et je lui dis, oui, si tu veux, oui, on va parler religion. Et il me dit, alors moi, je suis croyant, mais pas pratiquant. Conneries de dire je suis croyant, mais pas pratiquant. Mais c'est pour ça, des conneries. C'est parce que ton logique, c'en est pas une. Comment dire je suis croyant, mais pas pratiquant? Il me dit, non, mais moi, je crois que Dieu existe, mais j'ai pas besoin de pratiquer, j'ai pas besoin de prier pour croire en Dieu. Je dis, mais je ne pratique pas pour croire en Dieu, je pratique parce que je crois en Dieu. Parce que je crois en Dieu que j'ai besoin de le manifester. Et du coup, je lui ai posé la question suivante. Je lui ai dit, t'as une copine? Il me dit, oui. Je lui ai dit, tu l'aimes? Il me dit, ouais. Je lui ai dit, tu la pratiques? Il me dit, oh bah évidemment. Je lui ai dit, excuse-moi, mais à t'entendre, il suffit de dire qu'on aime pour que cela suffise. Non, bah non, il faut bien, me dit-il, que je lui montre que je l'aime. Sinon, elle risque de me lâcher. Il dit, bah, d'une certaine façon, avec Dieu, toute proportion gardée, certes, si je dis croire en Dieu sans jamais pratiquer ma religion, deux choses. La première, c'est que Dieu risque d'imaginer très rapidement qu'en réalité, il n'en a rien à foutre de lui. Deuxièmement, c'est que je risque réellement de ne plus en avoir rien à foutre de lui, c'est-à-dire que si je ne pratique pas ma religion, je vais finir par oublier que ma religion est peut-être un peu utile. Alors oui, parfois, pratiquer ma religion, ça me demande quelques efforts, je n'ai pas forcément envie d'aller à la messe, parfois ça m'emmerde terriblement, aller à un groupe de prière, ça me demande un effort, mais en même temps, quelle est la plus belle preuve d'amour que vous donnerez à la femme de votre vie? C'est évidemment de pouvoir faire un effort pour elle. Et le jour où vous aurez fait un effort pour elle, elle se dira « Ah, je m'aime réellement, c'est absolument extraordinaire. » À l'égard de Dieu, la preuve que vous l'aimez, c'est que vous soyez capable de faire un effort pour lui. Quand on est capable de faire un effort pour quelqu'un, quand on est capable de faire un effort pour quelqu'un parce qu'on l'aime, c'est alors pour nous la preuve qu'on l'aime, et c'est aussi ce qui permet à notre amour de grandir. Si vraiment le cœur de notre religion, c'est l'amour de Dieu, si le fait de croire en Dieu consiste à aimer Dieu, alors, nécessairement, il nous faut pratiquer notre religion comme une manière de manifester cet amour qu'on porte à Dieu, et le fait de manifester cet amour que l'on porte à Dieu, le fait de pratiquer notre religion, nourrit évidemment notre foi. Maintenant, il y a des jours avec et des jours sans, il y a des jours où cette pratique, elle est plutôt facile, parce que ça arrive. Enfin voilà, c'est pas forcément très compliqué d'aller à la messe, ça ne l'est pas nécessairement. Puis il y a des jours où c'est vraiment un effort surhumain, ça me casse vraiment les pieds. Je pense que ça en vaut évidemment toujours la peine, et je pense que on en ressort toujours enrichi, d'autant plus que l'effort a été conséquent, que l'effort a été important. Mais pourquoi est-ce aussi important aussi de prier? C'est parce que le rapport que l'on a avec Dieu est pour nous source d'énergie pour l'action, pour la charité que l'on va manifester à l'égard des autres, mais aussi pour nous-mêmes. Et c'est ce qu'on a appelé les dons de l'Esprit Saint, c'est-à-dire que quand je suis uni à Dieu, je puise en Dieu l'énergie de quoi? L'énergie de me sortir de moi-même pour aller au-devant des autres et répondre à leurs besoins. Mais je puise aussi en Dieu l'énergie dont j'ai besoin pour prendre soin de moi, comme tu l'as évoqué, parce que nous savons tous que nous avons de très grandes qualités, vous en avez et vous en êtes conscients, et j'espère que vous en êtes en tous les cas conscients. Et vous avez aussi évidemment des défauts, vous avez aussi des faiblesses qu'il vous faut dépasser. Et parfois, pour nous, ça nous semble surhumain. Il y a des défauts que l'on aimerait bien pouvoir corriger, mais on n'y arrive pas. Il y a des faiblesses contre lesquelles nous avons l'impression de ne rien pouvoir. Eh bien, le rapport que l'on a à Dieu, la prière, consiste à demander au Seigneur la force, l'énergie dont on a besoin pour petit à petit corriger le tir et ainsi donner le meilleur de nous-mêmes. Pourquoi doit-on prier? Parce que la prière est la source qui nous permet de donner le meilleur de nous-mêmes. Alors, je termine en vous disant, par votre confirmation, et je résume tout mon propos, vous êtes des pierres vivantes de l'Église par votre baptême. Mais par votre confirmation, vous devenez acteur. C'est-à-dire, c'est à vous d'agir. C'est à vous de vous prendre en main, de devenir adulte. Vous prendre en main de trois manières. Par la formation, en nourrissant votre intelligence. Par l'engagement de charité, c'est-à-dire l'attention que vous allez manifester aux autres. Mais, afin d'y parvenir, de pouvoir garder toujours un lien plus personnel, plus vivant avec Dieu. Un lien toujours plus personnel et par conséquent toujours plus fort. Plus on est uni au Seigneur, plus ce lien grandit. Et plus aussi on pratique sa religion et plus ça devient facile puisque l'habitude nous permet de faciliter les choses. Pour reprendre la question des biceps, c'est que au départ tout entraînement sportif est pénible et puis petit à petit plus on en fait et plus ça devient aisé, facile. Non, c'est exactement la même chose.
Comment ça devient plus dur, hein.
Ah non, plus ça va, plus tu atteins une aisance. Si tu dès le départ, les efforts sont évidemment énormes et petit à petit, tu augmentes les paliers de manière toujours plus facilement. Plus tu t'entraînes, je suis désolé, plus tu t'entraînes, plus ça devient.
Non, parce qu'à un moment, il y a un niveau qui est tellement haut qu'il est difficile à dépasser.
Bravo. Ça veut dire que tu es toujours appelé à te dépasser, donc tu as toujours des paliers où il faut faire des efforts. Mais n'empêche, c'est pour dire que moins on pratique, plus c'est difficile. Si tu vas courir une fois par mois, à chaque fois que tu prends la boutique, tu seras...
Par exemple, pour revenir à tes biceps, est-ce que c'est pas mieux de croire être pas, et de ne pas pratiquer que et pratiquer pas croire beaucoup? Parce qu'il y en a beaucoup à l'église qui pratiquent mais qui ne croient pas.
Ah bon? Mais oui. Et comment t'as limité à le savoir?
Pour la messe de Noël, par exemple. Il y a tellement de gens qui y vont et qui ne croient pas du tout.
Ouais, mais enfin, ceci étant dit, là tu parles d'un cas exceptionnel, c'est-à-dire de la messe de Noël qui souvent est une messe un peu culturelle où les gens y vont
pour le signe.
On est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que là on parle des chrétiens qui croient en Dieu et qui par conséquent pratiquent leur religion. Moi je crois que ça vaut toujours la peine de la pratiquer, à la rigueur y compris quand les gens ne croient pas. Mais quand quelqu'un ne croit pas et qu'il va à la messe, c'est peut-être l'occasion pour lui de découvrir qui est Dieu. C'est comme en lisant un bouquin pour savoir de quoi ça parle et de se dire bah, je vais ainsi me faire une idée. À Grandchamp, il y a un type qui est venu, un garçon qui est venu me voir en me disant j'ai été baptisé enfant, je n'ai jamais été à la messe et j'y suis allé pour la première fois mercredi dernier, c'était le mercredi décembre, l'entrée du carême, qui n'est pas la messe la plus sexy de l'année, hein, mercredi décembre, c'est pas une messe forcément joyeuse. Et il m'a dit, j'y suis allé parce que je voulais voir à quoi ça ressemblait. Et il m'a dit, j'ai vraiment été touché par la messe, enfin, ça m'a profondément marqué. Et du coup, il m'a demandé si on pouvait se voir pour parler religion, discuter, etc. Ça montre quoi? Ça montre que quelqu'un y est allé à titre culturel pour se renseigner, voir à quoi ça ressemblait. Et par la messe, en étant présent, eh bien, ça l'a intéressé à la question. Il s'est intéressé à la question. Mais pour un croyant, parce que je parle vraiment du croyant, un croyant qui ne pratique pas, c'est un croyant qui met évidemment sa foi en danger. C'est quelqu'un qui verra sa foi se déliter parce qu'il ne la nourrit pas. Et vous le savez, c'est la comparaison qu'on prend toujours, la foi est comparable au corps. Si vous ne vous nourrissez pas, vous vous affaiblissez et vous mourrez. Si vous ne nourrissez pas votre foi, elle s'affaiblira nécessairement, elle finira même par mourir. Et donc par la confirmation, prenez soin de cette foi que visiblement vous avez puisque vous demandez la confirmation. Je dirais, si vous ne croyez pas en Dieu, ne demandez pas la confirmation parce que là, ça serait hypocrite à l'égard de vous-même, parce que vous vous mentez à vous-même. Vous allez faire croire que vous croyez en Dieu alors que vous n'y croyez pas. C'est hypocrite à l'égard de l'Église parce que vous faites croire à l'Église que vous y croyez alors que vous n'y croyez pas. Donc vraiment, si vous n'y croyez pas, ne la faites pas la confirmation. Ne la faites pas à titre culturel en vous disant « bon, je suis catho, famille catho, il faut que je le fasse ». Ce n'est pas « il faut que je le fasse », c'est « je le fais, je ne peux le faire et je ne le fais qu'à partir du moment où j'y crois réellement ». Et c'est tout le sens de la lettre à l'évêque que vous allez rédiger. C'est une lettre de motivation par laquelle vous vous engagez personnellement. Ça roule, messieurs ?
On a fait quand la lettre ? Dis donc.
Est-ce que vous avez des questions tout de même?
Ouais. Pour le goûter, sans ça,
avec un crayon.
Comment est-ce qu'on
décrit la lettre?
Tu prends papier, tu prends un stylo d'écriture. C'est une lettre.
On a un papier là.
Ouais, j'ai rien. Je réponds à la question.
Mais c'est pas de.
C'est une lettre.
J'ai pas de papier.
C'est une lettre. Vous écrivez donc à l'évêque qui vous confirmera, dans laquelle vous motivez votre demande, vous lui demandez, d'abord c'est une lettre par laquelle on demande, vous demandez à l'évêque de pouvoir être confirmé, la grâce d'être confirmé. Et pour cela, c'est vraiment comme une lettre de motivation, vous motivez votre demande. C'est donc une lettre très personnelle, en somme, c'est une lettre très personnelle, si j'ose dire, il n'y a pas de cadre. Cette lettre. Il n'y a pas de formule particulière pour cette lettre. Vous l'écrivez, si je puis dire, telle que vous pouvez l'écrire, elle doit être le reflet de ce que vous êtes, de ce que vous pensez, de ce que vous avez dans le cœur. Donc, soyez le plus spontané possible, dites les choses vraiment telles que vous les pensez, afin vraiment, par votre lettre, d'exprimer ce que vous pensez, ce que vous croyez. Ça va?
Oui, ça va.
Tu vois ce que je veux dire?
Ça roule.
Tu veux préciser? Il n'y a pas d'électro-coup?
Des lettres à
Comment? Allez. Non, si la lettre est mal faite, vous n'avez pas de choc. En revanche, si dans votre lettre, j'allais dire, si dans votre lettre vous manifestez que vous n'y croyez pas, peut-être que l'évêque vous dira alors, bah écoute, c'est pas très cohérent. Mais si tu n'y crois pas, ça veut dire qu'a priori, c'est surtout que tu n'écriras pas ta lettre. Donc si vous écrivez votre lettre, normalement, le fait d'écrire la lettre signifie que vous voulez réellement faire votre confirmation. Ensuite, vous pouvez vouloir faire votre confirmation avec néanmoins beaucoup de questions, beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes, et vous pouvez très bien l'exprimer dans votre lettre. Vous ne serez pas recalé. C'est pas une lettre par laquelle vous serez recalé si elle n'est pas de bonne qualité. C'est une lettre, j'insiste, qui doit manifester votre désir. Et comme l'Église ne veut jamais violer les consciences, ce qu'elle veut voir, c'est que vous êtes libre de demander la confirmation. Si vous écrivez dans votre lettre en demandant la confirmation, parce que mes parents m'y obligent, bah, il est vraisemblable que l'évêque, à beaucoup, dira « Bah écoute, dans ces cas-là, je préfère ne pas te confirmer parce que ça n'a pas de sens. » Mais ça ne veut pas dire qu'il se recale, c'est-à-dire qu'il respecte au contraire ton cœur, ta pensée, et là où tu en es. Bon, autre chose ?
Non.
Vous les donnez de toute façon c'est... Bon bah de toute façon vous aurez un canevas, enfin un résumé, plutôt un...
Ah, c'est bien. Ah, c'est bien. Ah, c'est bien.